Bon, voilà. Donc, le troisième ou quatrième film d'une espèce de série que Laura fait sur cette histoire, sur l'histoire collective de l'Argentine, de l'Uruguay et sur sa propre histoire. Donc, première question, comment tu as conçu le film? Comment tu l'as, par exemple, le scénario, comment tu l'as écrit? Parce que dans ce film, d'abord, il y a de la fiction, il y a du documentaire, il y a l'histoire collective, universelle, il y a ta propre histoire. Tu te mets en scène, puisqu'il y a une actrice qui joue ton rôle. Tu mets en scène aussi Yenia et Mario. Il y a des textes qui sont les journaux de Yenia, mais il y a des textes que l'on suppose qui ne sont pas ces journaux. Il y a d'autres textes écrits. Et pour finir la question, est-ce que depuis le début, tu savais que tu allais raconter cette histoire comme ça? Oui, parce qu'au début du film, Laura met en scène un doute. Comment raconter depuis la petite fille ou depuis l'adulte? Donc, ça a été un processus de construction narrative très, très long. Parce que depuis le début, je savais que je voulais raconter l'histoire de Yenia, mais les décisions que j'ai prises au niveau narratif, elles sont arrivées ensuite. En fait, le processus a été très long, le processus de construction a été très long. Il y avait un scénario au départ, un scénario qu'on avait beaucoup travaillé, mais lorsqu'on a voulu commencer le tournage, on est allé chercher des personnages qu'on voulait interviewer, non ? Qu'on voulait avoir dans le film, mais beaucoup de personnages, de nombreux personnages étaient déjà décédés. Donc il y avait des manques et donc il fallait reconstruire. Donc en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'il me manquait, des morceaux. Et j'ai décidé, comme je le dis dans le film, que j'allais inventer ce qui me manquait, j'allais imaginer ce qui me manquait. Et je ne suis pas une fan de mélange des genres, non. Mais ce que j'ai décidé, ce que j'ai su tout de suite, c'est que je voulais qu'en tout cas, les morceaux qui étaient, les parties qui étaient fictionnelles, devaient être tournées comme un film de fiction. Des années avant de commencer à tourner, j'ai présenté le film dans un prix au Canada, voilà. Et là, il y a un prof qui m'a parlé, qui m'a regardé dans les yeux, qui m'a dit « Laura, il faut que tu fasses le film que tu as envie de faire. Ne te préoccupe pas, il faut que tu fasses comme tu as envie de le faire. » Et c'est lui qui m'a donné la force vraiment de raconter l'histoire comme j'avais envie de la raconter. Je pose la question de toutes les archives qu'elle utilise, hein. Est-ce qu'elle les a trouvées? Est-ce que ça a été compliqué? Quel travail d'édition elle a fait? Pour les images d'archives qu'on voit à la fin, non, c'est un travail que j'ai fait lorsque j'étais à l'université de Buenos Aires, l'université de cinéma, et on nous demandait de choisir un personnage et de lui faire une entrevue. Et donc, en fait, j'ai appelé Yenia et je lui ai dit « J'ai besoin de faire ce travail pour l'université et le personnage que j'ai choisi, c'est toi. » À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais faire le film. Donc, c'était 2 ans juste avant leur mort. Et donc, lorsque j'ai décidé de faire le film, je savais que j'avais ce matériel-là que j'avais filmé, qu'il n'y avait pas d'autres images filmique de Yenia, mais je savais que j'avais ce que j'avais filmé à ce moment-là. Donc en fait, les autres images d'archives, ça a été un peu compliqué parce que il y a des images d'archives historiques, non, que j'ai obtenues. C'est surtout d'Argentine et du Chili, mais tout au cours de cette construction du film, de réalisation de ce film, en Argentine, le gouvernement a changé, donc c'était plus compliqué d'avoir ces archives. Et donc, avec la copine qui se chargeait justement des archives, on a décidé qu'il fallait aller chercher les archives sur place. Donc, on s'est déplacé. On a recherché des archives qui n'étaient pas tant historiques, mais plutôt des familles ou bien des chefs-op. Et ça a été extraordinaire parce qu'on a rencontré toutes ces personnes qui nous ont prêté ces archives.
Bonjour. Et il y a également des archives qui sont, ou des images qui sont tournées, on imagine, en Suisse. Alors, voilà, avec un traitement particulier de la pellicule et un bougé qui évoque des films amateurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces images? Est-ce que ce sont des reconstitutions ou des archives familiales?
Donc la plupart de ces archives sont des archives personnelles, des familles, des amis. Les premières images qu'on voit quand je suis petite fille, ça c'est des images d'archives de ma famille, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je suis allée chercher une par une ces archives d'amis, de gens qui ne sont pas des réalisateurs, mais qui aiment filmer. Et ce qui était compliqué, peut-être, c'est que je ne voulais pas utiliser ces archives de façon historique, mais plutôt ces archives, elles rentraient dans le schéma, mon schéma narratif. Donc, c'était très précis ce que je voulais obtenir. Donc, pour moi, c'est très important d'être ici, dans cette salle, de vous présenter ce film. Nous sommes à 50 ans de la dictature argentine, Silicon Militaire Argentine, le 24 mars 1976. Et donc, ce film, il traverse l'histoire, c'est l'histoire de l'Argentine, mais de l'Amérique latine globalement. Et c'est aussi mon histoire, puisque je ne l'ai pas mis dans le film, mais mon frère, Mario, a été assassiné par la dictature, ma mère a été séquestrée. Et donc, c'est très important de pouvoir montrer ce film. Et c'est une espèce de justice poétique, non? Oui. Merci pour ce très beau film. Merci de nous avoir permis de rencontrer Yenia. Je suis encore un peu sous le choc du film que je viens de voir, mais je me demandais, tu mets beaucoup de toi dans ce film, non? Il y a beaucoup de méta-films, mais il y a aussi beaucoup de méta-Laura dans ce film. Et donc, je voulais te demander, est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure de la construction du film, de la réalisation du film, et en quoi ça t'a touché, en quoi ça t'a changé? Je n'avais pas du tout l'intention au départ d'être dans le film. Je ne voulais pas non plus raconter ni mon histoire ni celle de ma famille. Au contraire, je voulais rester totalement à l'extérieur. Mais au fur et à mesure, et notamment quand je suis arrivée au moment du montage, ça a été très, très, très difficile. J'étais bloquée, j'ai passé beaucoup de nuits blanches où je me demandais mais pourquoi est-ce que je fais ce film et je n'arrivais pas à trouver le récit, comment raconter ce film. Donc en fait, j'étais bloquée, donc j'ai discuté avec le monteur, on est deux à avoir fait le montage. Le montage pour moi c'est important dans un film. Ça a été un montage très long, très compliqué. Et je lui ai dit, il faut qu'on arrête, il faut qu'on fasse une pause. J'ai besoin de réfléchir. Donc je suis partie dans une maison que m'a prêtée une amie. Elle a une maison à la plage. Je suis partie toute seule. Je suis restée là un certain temps. Et un jour je me suis levée, je me suis dit, bon Laura, il faut que tu racontes cette histoire, il faut que tu dises la vérité. Donc en une nuit, j'ai écrit la voix off, j'ai appelé une amie qui est actrice, qui est Laura Paredes, qui fait la voix off, et en fait après tout a coulé, tout le film est arrivé, le récit a été totalement très, très facile à faire. Oui, ça m'a bousculé, puisque je devais prendre la décision de raconter mon histoire, une histoire très personnelle. Mais en fait, après, ça a été très libérateur.
Merci beaucoup. Le film m'a énormément touchée. J'ai appris beaucoup de choses parce que je ne connais pas beaucoup de choses sur l'Amérique latine. Par contre, je connais beaucoup de portraits de femmes russes formidables, notamment des peintres, des écrivaines. Et donc, j'ai retrouvé dans ce couple magnifique... avec toute la pudeur que vous montrez, je retrouve beaucoup de choses russes, en effet, chez Xenia. Et je voulais vous demander si, au-delà de son destin et du destin de ce couple qui semble très très singulier, est-ce que d'autres, vous avez pu avoir connaissance d'autres Russes, d'autres femmes qui, à cette époque-là, ont eu un peu cette trajectoire ? À la fois, j'imagine, des artistes et engagés politiquement, etc. Merci.
Non, je ne connais pas d'autres femmes russes comme ça. Je crois que Yenia est la seule femme russe que je connaisse, que j'ai connue dans ma vie. Mais par contre, bien sûr, lorsque j'ai fait des recherches pour les archives, j'ai beaucoup lu sur la Deuxième Guerre mondiale, sur l'histoire de Yenia, de son enfance.
Ces belles images de montagnes, c'est lesquelles les montagnes?
Ce sont des images d'Argentine, de Ushuaia, de la Patagonie. La question est... c'est un film très, très personnel. Merci pour ce film. C'est un film très personnel. Et donc, mes questions vont aller dans ce sens. La première question, c'est pourquoi est-ce que... Ce n'est pas toi qui fais la voix en off, puisqu'en fait, c'est toi qui parles. Voilà. Et la deuxième question, c'est que ta grand-mère, la grand-mère que tu as choisie, tu l'as choisie plusieurs fois. On le voit bien. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus de cette grand-mère? Donc en fait, c'est pas moi qui fais la voix off, parce que j'aime pas ma voix, et puis j'avais pas les capacités pour le faire. J'ai décidé que ça devait être une actrice qui fasse cette voix en off. Ce qui m'intéressait dans la voix off, c'est qu'il devait y avoir une continuité dans le ton, dans le, Et ça, c'était pas possible que ce soit moi qui le fasse. Donc c'est important que ce soit une actrice. En fait, toutes les femmes qui apparaissent dans la fiction sont des amies. Laura est une très grande amie à moi. Et la façon dont elle dit le texte, c'est comme si moi je le disais. L'intention est exactement la même. Il n'y a aucune posture là. Dès le départ, ce que je voulais raconter l'histoire de cette grande femme, mais je ne voulais pas le faire de façon personnelle, de façon toute seule. Mon idée, c'était qu'il y ait un ensemble de femmes qui puissent raconter l'histoire de cette grande femme. Je voulais pas le faire toute seule, depuis ma solitude, en quelque sorte. Ce qui m'a le plus marqué, impacté de Yenia, c'est son côté féministe, mais pas un côté féministe dans le discours, mais plutôt dans les actes. C'est quelqu'un qui ne demandait pas l'autorisation, qui était très irrévérencieuse, qui était très drôle, elle avait beaucoup d'humour. Elle ouvrait les portes et elle rentrait, elle ne demandait pas l'autorisation de le faire. Et c'est pour ça que tous les hommes qu'on interviewe disent qu'ils sont très... qu'à chaque fois, ils ont un impact très, très important en la voyant, parce que c'est vraiment quelqu'un qui faisait ce qu'elle voulait faire et sans demander l'autorisation à personne. Donc, merci pour ce film. Une question. Au début du film, tu dis que tu as dû choisir entre raconter l'histoire du point de vue de la fillette que tu étais ou bien de l'adulte. Et qu'est-ce que ça aurait changé? Le regard de la petite fille, j'imagine bien ce que ça pourrait être. Mais le regard de l'adulte, qu'est-ce que ça aurait changé? Le regard de l'enfant, ça aurait été quelque chose, un regard très admiratif, un peu, très admiratif. Et bien sûr, je voulais garder ce regard, mais je voulais surtout pouvoir prendre de la distance par rapport à ce regard d'enfant qui idéalise, etc., et pouvoir la raconter d'égal à égal, au même niveau. Et donc je ne pouvais pas raconter du point de vue de l'enfant. Donc la question, c'est sur la bande-son, sur la musique, qui m'a beaucoup impressionnée. Comment tu as travaillé cette bande-son, notamment les parties au piano, comment tu as travaillé ça, est-ce que ça a été long, comment tu as conçu le son, la bande-son?
Ça faisait partie aussi, je me permets, parce que c'est long, ça fait partie en fait, ce que je dis, c'est ce qui est important, c'est que c'est un élément...
Oui, c'est un élément de la narration.
C'est en fait dans le film, les séquences de fin, surtout avec le quand on voit le score sur le piano,
oui.
C'était très très joli ça.
Les séquences de la fin avec le piano, on voit le piano et le piano, sont des moments très puissants. En fait, la musique, pour moi, la musique, dès le début du film, dès la conception du film, il était évident que la musique devait faire partie de la construction et de la narration. Je ne voulais pas une musique de fond, de décor, mais je voulais une musique qui soit à l'avant, qui soit... Et donc, je suis beaucoup intervenue. J'ai travaillé avec deux musiciens, donc c'est une création originale. J'allais beaucoup au studio et j'ai fait des recherches et j'en disais, je veux que la bande-son, que la musique aille dans ce sens. Je suis moi-même, je joue du piano depuis que je suis toute petite. Et donc, je suis beaucoup intervenue dans cette création, dans la création de la musique.
C'est pour ça que ça se sent.
La musique est un personnage très important dans le cœur, au cœur même de ce film. C'est ce que j'ai ressenti que vous-même, vous étiez musicien, en tout cas vous jouiez d'un instrument. Et c'est pour ça que ces passages sont si puissants.
Qu'est-ce que ce film a représenté pour vous? Est-ce que vous étiez dans le même état d'esprit? Comment est-ce que vous sentiez avant et comment est-ce que vous sentiez après?
Et ce film m'a permis beaucoup de grandir, non? Parce que pendant le processus du film, il y a des moments où j'avais peur, enfin pas exactement peur, mais j'osais pas, je me lançais pas dans le film. Avec ce film, j'étais obligée un petit peu de me lancer dans le film directement. Ça a beaucoup éclairé aussi des doutes que j'avais. Je me sens beaucoup, beaucoup plus claire. Ça m'a donné beaucoup de confiance. C'est comme si tu avais accouché. J'ai un projet avec Mencha là-bas, avec Menchou et avec Gloria, elle veut faire qu'on fasse un road movie. Et ça, je vous préviendrai quand ça sera fait, c'est pas encore fait. Hein. Et j'ai un projet de fiction en Argentine, ce sera ma première fiction, dans un petit village où il ne pleut plus, il n'y a plus d'eau. Et donc, quels sont les problèmes que ça pose et voir comment les personnages d'une famille résolvent ce problème. Les guerres de l'eau sont les guerres que nous allons avoir, que nous avons déjà, sont des guerres cruelles, et donc ça sera une fiction. Et elle a la chance d'avoir Javier Bardem qui parraine le film et qui a accepté d'être l'acteur principal. Donc on lui souhaite de l'avoir pour 2028, si elle me dit.